Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, débrief du Grand Prix de Chine. Premier doublé de la saison pour McLaren, la deuxième victoire même de cette saison. C'est Oscar Piastri cette fois qui s'est imposé en Chine. Le début de saison est vraiment excellent pour McLaren. On va se pencher également sur le fiasco Ferrari. On pensait vivre un week-end parfait. Ah, c'était le début d'une romantique histoire d'amour. Première victoire de Lewis Hamilton lors de la course sprint. Et puis tout s'est effondré, on va tout vous expliquer. Les deux voitures disqualifiées du jamais vu dans l'histoire, c'est un truc de dingue et ça met Ferrari vraiment en difficulté pour la suite de la saison. Et puis on va débriefer ce Grand Prix en long, en large, en travers. Il y a une très belle perf d'Esteban Ocon. Isaac Hadjar a su relever la tête après son erreur de la semaine dernière en Australie. Bref, il s'est encore passé plein de choses. Vous avez l'habitude désormais, le petit rappel pour noter le podcast sur les plateformes de téléchargement, les 5 petites étoiles. Et donc on va commencer ce débrief comme on l'a fait la semaine dernière, par donner une note sur 5 à ce Grand Prix. Je vais accueillir tout de suite les ingénieurs et le team principal du paddock RMC, Jean-Luc Roy, Arnaud Valadon et Alex Caldi. Salut les gars.
Hello. Et
salut
Nico, tout le monde.
Bonjour à tous.
Jean-Luc, quelle note sur 5?
Oui.
Celui-là.
Alors écoute, comme j'avais dit 4 pour l'Australie, le Grand Prix là en lui-même était bon, moins passionnant. Si on se plaint au plan sportif strictement, 3,5.
Ouais, petit 3,5. Et pour vous,
ouais,
les gars?
2. Moi, vu la clownerie, moi je mets 5, hein, attendez, Ferrari.
Oui,
on peut.
2. Ah, 2, t'es dur.
Je me suis ennuyé, il s'est rien passé.
Ouais.
Franchement,
et non. Regarde, Lando
si
a dépassé Russell.
Si tu mets 2 à ce Grand Prix.
Ouais, ça se comprend.
Franchement.
Ah oui.
Après, je dis pas que je me suis ennuyé, mais c'était pas. C'était pas fou, quoi.
Non, mais. T'es pas régalé, mais tu vas nous en parler. Hein. on va se plonger tout de suite dans ce débrief. Allez, c'est parti pour ce débrief du Grand Prix de Chine. Les résultats de ce Grand Prix de Chine. On va commencer déjà par les résultats de la course sprint. C'était la première de la saison. La victoire sur sa Ferrari de Lewis Hamilton qui prend les 8 points du vainqueur. On aura le temps d'en reparler. Ça a fait quelque chose quand même de voir Hamilton lever les bras dans sa combinaison rouge. Oscar Piastri 2e, Verstappen 3e, Russell 4e, Leclerc 5e, Yuki Tsunoda 1er point sur sa Racing Bull 6e, Kimi Antonelli 7e. Et Lando Norris qui est passé au travers de cette course sprint, 8e. Allez, on vous donne les résultats du coup du Grand Prix. C'est Oscar Piastri qui s'est imposé. 3e victoire de sa carrière en Formule 1. Doublé McLaren, je vous le disais, dans le petit sommaire devant son coéquipier Lando Norris qui termine à un peu moins de 10 secondes. George Russell, comme en Australie, qui complète le podium. Derrière Verstappen, 4e. Esteban Ocon, 5e. Kimi Antonelli, 6e. Albon, 7e. Oliver Berman au volant de sa Haas, super grand prix des Haas, hein. 8e. Lance Stroll sur son Aston Martin, 9e. Carlos Sainz va chercher son premier point avec Williams. Isaac Hadjar est 11e. Et si vous n'avez pas entendu le classement des Ferrari et de Pierre Gasly, c'est parce que les trois voitures ont été disqualifiées. On aura bien sûr le temps d'y revenir. Jean-Luc, on va ouvrir ce podcast quand même sur Ferrari. On est obligé de parler de Ferrari. On va revenir sur la victoire de Piastri un peu plus tard, mais on a vécu tellement d'émotions contraires, Jean-Luc, lors de ce Grand Prix de Chine. Je le disais, la victoire d'Hamilton lors de la course sprint où on se dit qu'il se passe vraiment un truc, et derrière il y a cette course où Ferrari termine 5e et 6e, Leclerc 5e, Hamilton 6e, et la disqualification. C'est un week-end assez dramatique pour Ferrari, je le disais, première fois de l'histoire que ça leur arrive d'avoir les deux monoplaces disqualifiées.
Eh ben oui, Nico, t'as déjà tout évoqué. Alors ma réponse va faire à peu près 15 minutes, les gars, vous pouvez dormir. Non, je vais essayer d'aller à l'essentiel.
On a le temps, Jean-Luc,
non,
c'est le format podcast.
Point
tu te régales,
point.
Tu fais ce que tu veux.
Bon, écoute, non, je vais essayer d'être synthétique, mais c'est vrai que c'est difficile. Alors, tu parles déjà de la course sprint. Bah oui, Hamilton fait une super qualif, donc il est devant. On a compris que la clé, c'est les pneumatiques. Hein. De toute façon, c'est toujours les pneumatiques, donc c'est aussi simple que ça. On sait que sur ce tracé-là, qui a été resurfacé, donc beaucoup d'adhérence, etc., ils sont soumis à la torture, notamment le pneu avant gauche, qu'il faut préserver. Là, c'est seulement 19 tours. On se demande même si, en médium, ils sont tous partis en médium, ça va tenir la durée. disais, eh bien oui, parce qu'en plus Hamilton étant devant, bah évidemment ses pneumatiques sont moins perturbées que ceux des autres, il peut gérer, donc bon, c'est une très belle victoire, c'est surtout une très belle qualif, et puis il la mérite, et fait, comme tu dis, c'est super, c'est le début de l'histoire, on se dit, ah bah c'est bien parti, etc. Bon, la, le petit bémol, puisqu'on parle que de Ferrari, c'est Charles Leclerc qui fait que cinquième, j'allais dire que, bon c'est moins bien.
Il avait son aileron.
Il était... Pardon ?
Il avait son aileron cassé.
Oui, 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 il y avait son aileron... Ah ben non, pas, pas... là je te parle du sprint.
Ah, du sprint, hein. Du sprint, pardon.
Ah ouais, non, 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 là il ne l'avait pas encore cassé, ça va venir. Oui. J'ai dit... Donc pour le moment, on se dit, ouais, bah, c'est bien, c'est même très bien, mais c'est la coursinette, c'est celle du samedi, on attend le vrai Grand Prix. Alors là, on voit que bon, en qualif, bah, ça va un peu moins bien, puisqu'ils sont en gros à leur place, hein. Ils sont 5 et 6 sur la grille, bon, ça rappelle des souvenirs. Et pourtant, moi je m'attends à ce que, là aussi, le taulier pour moi c'est Charles, hein, je le dis depuis le début, parce que, bon, en plus, il est très rapide en qualif avec cette voiture-là, enfin avec la Ferrari depuis le début. Et ben, il dit, non, non, je ne me suis pas loupé, il y avait peut-être un ou deux petits dixièmes à gratter, c'est notre niveau. Ah, là, c'est plus inquiétant. On se dit qu'effectivement, du coup, la victoire d'Hamilton dans le sprint, eh ben, c'était dû au fait qu'il était devant et qu'il a bien protégé ses pneus et qu'il a très bien joué. Bon, on attend le Grand Prix. Et puis alors, effectivement, ben, en Grand Prix, on n'est pas déçu, puisque là aussi, là, pendant la course, entre guillemets, ben, ils sont à leur place. Alors, il y a effectivement cet aileron que tu évoquais il y a un instant, la petite friction de la fin du virage, du très long virage numéro 1 ou du numéro 2, comme on veut, entre la roue arrière droite de la monoplace d'Hamilton et la moustache avant gauche de Charles. Bon, écoute, bah ça c'est un incident de course, il n'y a pas épilogué des heures là-dessus, ça va leur arriver d'autres fois, hein, s'ils sont tous les deux sur la même ligne d'une grille de départ. Alors après, le problème... Et c'est ça qui me fait toujours rigoler à moi, c'est quand on nous parle de tous les éléments aéro, avec 20 à 30 points de moins, c'est ce que son ingénieur lui dit, mais il va plus vite qu'Hamilton devant. C'est quand même à mourir de rire. Donc, ben oui, c'est ce que je dis à chaque fois. On nous bassine avec les éléments aéro. Ouh là là, c'est important. Non, mais c'est surtout, je vais rappeler quand même un truc, c'est qu'il roule à 7, 8, 9 secondes des temps. Parce qu'ils gèrent, c'est toujours un peu la même histoire hein, maintenant la Formule 1. C'est-à-dire que ils sont tellement pas dans la perf, mais tellement déjà dans la gestion que, bah, en l'occurrence, Charles se sent un peu mieux. Alors, il paraît qu'on nous a occulté aussi une partie. Vous avez vu la polémique hein, que la FOM nous aurait pas donné toutes les conversations. Il paraît que ce serait Hamilton qui aurait proposé de laisser passer Charles parce qu'il était bon. On n'en sait rien.
Oui, là ouais, aussi,
ils nous manipulent comme ils veulent. Effectivement, on peut avoir. C'est ce qu'a dit Fred Vasseur. Hein. Alors, la FOM a répliqué en disant mais non on a tout donné, bon peu importe, en tout cas on laisse passer Charles du coup qui est effectivement à ce moment de la course plus rapide, mais on voit bien que pour autant il n'est pas capable de revenir vraiment sur ceux qui sont devant hein. il n'a pas le rythme et puis on attend de voir ce qui va se passer avec les pneus. Or ce qui se passe avec les pneus, bah, contrairement là aussi, pof, un gros pavé dans la mare à ce que disait Pirelli, non on va pas s'arrêter deux fois, la majorité va s'arrêter une fois. Alors il y a un vrai problème parce que cette année, ils nous ont sorti des pneus qui, soi-disant, sont plus tendres et se dégradent plus. Donc, bah, en fait, non. Parce qu'en Chine, sur un tracé resurfacé avec plus d'adhérence, ils emmènent les pneus au bout avec un seul arrêt. Il y a un petit souci. Bon, je m'arrête là parce que sinon, j'ai dit que j'allais pas faire trop long.
Non, mais on va après analyser point par point et découper.
Bah, le déclassement, oui, ça c'est encore autre chose.
Bon, alors, ils ont communiqué en disant que c'était la stratégie à un arrêt.
Bah, c'est ce qui m'énerve.
Alors je vous rappelle les motifs de déclassement disqualification. La monoplace de Leclerc pesait 799 kg, soit 1 kg sous le poids minimal réglementaire de 800 kg. Pour Hamilton, c'est le fond plat de la voiture qui présentait une usure excessive, les patins
8,
étant
6,
à demi millimètre en dessous de la limite autorisée de 9 mm. Voilà pour les motifs de disqualification. En plus, ce sont deux motifs différents.
Non, c'est ça.
Et le poids, c'est le même pour Pierre Gasly. Hein,
c'est la même chose pour Pierre Gasly. Ouais, la même chose que
j'ai lu une blague sur Twitter.
Et c'est
en
la même chose, si vous vous rappelez, que George Russell déclassé à Spa l'an dernier. Hein.
Bah, oui.
J'ai lu une blague sur la monoplace de Charles Leclerc, sur le fait qu'elle était disqualifiée pour manque de poids. C'est parce qu'il manquait l'eau.
Ah oui, bah oui.
L'eau de la semaine dernière après l'Australie, bien évidemment. Ah non,
mais c'est ça.
Alex, comment t'as vécu ce week-end? Déjà, c'est quand même un gros fiasco pour Ferrari. On n'a pas donné, et j'ai pas donné les classements du championnat, hein, mais Charles Leclerc, il se retrouve 10e au championnat avec 8 petits points seulement. Ouais. Hamilton 9e, alors que devant, t'as Lando Norris qui est déjà 44 points. Verstappen 36, Russell 35, Piastri 34.
Donc bon.
Bah ouais.
Classement constructeurs.
Même si t'as du
retard, ils sont à égalité avec Williams, hein.
17. Mais c'est t'es à 61 points au classement constructeur de McLaren, déjà, après deux grands prix.
Non, mais c'est, en fait, t'as utilisé le mot fiasco, et pour moi, c'est même plus que ça, c'est un cauchemar. En fait, le début de saison à Skoda Ferrari, alors qu'on a une SF25 qui, normalement, est censé jouer le titre, puisqu'on rappelle que Frédéric Vasseur et même Charles Leclerc et Lewis Hamilton est venu chez Ferrari pour gagner le titre cette saison, dès cette saison. Et on arrive à une situation où là, finalement, non pas seulement peut-être par la gestion de notamment par cet SC25 ou son potentiel, mais principalement parce que l'écurie a mal géré ses deux premiers Grands Prix. C'est le pire début de saison de Ferrari depuis 2009. Depuis quand même assez longtemps en Formule 1, j'ai pas encore mieux, c'est quand même eu Luca Badoer hein, dans cette équipe et Giancarlo Fisichella. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette écurie. C'est même un des pires débuts de saison depuis et bien même 2014 sur les deux premières courses, parce qu'en on rappelle qu'en 2014 il y avait eu la F14T, l'infâme voiture qui survirait, qui s'ouvrait, et elle avait marqué quand même 30 points sur ses deux premiers Grands Prix hein. Alors qu'il y avait eu, il y a quand même eu là, on a eu trois courses avec une sprint, et même la SF1000 à l'époque, la SF1000 avait marqué 19 points en deux courses en 2020, alors que c'était une voiture horrible. En fait, moi c'est ça qui me dérange, c'est qu'on nous avait promis un début de saison où on allait avoir une hype énorme avec Lewis Hamilton, avec Charles Leclerc, cette association fantastique qu'il allait y avoir entre les deux. Et puis finalement, sur le début de saison, on arrive en Australie, c'est une catastrophe absolue. On ne sait pas gérer cette SC25, on ne sait pas même gérer, j'ai envie de dire, tous les programmes, on va dire ça ainsi, même en rythme de course, ils étaient à des années-lumière par rapport à McLaren et même par rapport à Mercedes qui a trouvé une certaine solidité aussi également. Passons que là, on est Ferrari, on est revenu à une situation où on est tout, comme sous Mattia Binotto. Voilà.
Je sais pas, ouais, c'est bizarre.
J'incrimine pas en fait Frédéric Vasseur, mais c'est juste que là, on est quand même dans une situation Mattia Binotto-esque, et j'ai même envie de dire, la seule écurie où il peut y avoir une double disqualification pour deux raisons différentes, ce qui quand même relève presque d'une faute professionnelle, un record, une première dans l'histoire de Skoda Ferrari, ça ne pouvait arriver qu'à la Scuderia Ferrari quand même, cette situation. Et c'est en fait ce qui est alarmant selon moi, c'est que on s'attendait à réellement nettement mieux, et surtout à une voiture et à une équipe qui est capable de jouer le titre. Tu ne peux pas gagner le titre en gérant une telle situation d'écurie, sachant que tu es la Skoda Ferrari, c'est impossible.
Avec en plus l'erreur de faire deux arrêts à Hamilton.
Oui.
Parce que voilà.
Ça c'est une tentative, honnêtement. Oui. Bon, ils ont tenté sur une des deux. Hein, et bon,
après, c'est sûr, il avait un rythme de malade.
C'était pas une bonne idée, mais bon.
Oui. Mais moi, c'est, je vous rejoins sur tout ce que vous avez évoqué, mais il y a un autre aspect qui moi m'inquiète pour la suite. Certes, effectivement, tu prends le bilan comptable, les pairs, bon. C'est 2,5 courses parce que je mets le sprint. Ouais. Attendant Suzuka, voilà, c'est aussi la première course où on était vraiment sur du sec.
Oui, bien
on
sûr.
Pas en Australie avec les conditions. Mais c'est que je sens déjà, parce que tu as aussi ce manque de performance, les tensions entre Leclerc et Hamilton. Moi, sur la façon dont où Charles râlait, même s'il y avait une forme de retenue pour dire, écoutez, l'autre, il avance pas devant, laissez-moi passer.
Ouais,
et en plus,
laissez-moi passer.
J'ai un aileron cassé et 30 points d'aéro en moins. Ouais. C'est marrant, j'ai l'impression de revoir où Sainz était très performant en qualif.
Bien sûr.
Et le pilote du dimanche, c'était Charles. Et j'avais l'impression de revoir un petit peu ce même schéma. Et sauf que Lewis Hamilton, c'est pas Carlos Sainz. Tu gères pas de la même façon. C'est pas le même.
Il a traîné les pieds pendant 2-3 tours. Hein, voilà. Ouais. Et oui.
Et moi, je sens poindre, parce que t'es pas performant, si t'avais des podiums, etc., même s'il y a cette victoire en course sprint. Et j'ai peur que ça tourne en autre boudin, parce que si tu marques pas des points, si t'es pas performant, ça exacerbe les tensions.
Après, je rajoute, même, je trouve que Charles Leclerc, sur ce Grand Prix de Chine, alors il a dit qu'il aimait pas la piste, qu'il arrivait pas à performer sur ce tracé en Chine. Il y a quand même un peu de.
C'est bien défendu quand même.
Oui, c'est bien défendu, mais il était quand même très très tendu vis-à-vis de la radio et même vis-à-vis des commentaires.
Ce que j'allais dire, le début de week-end de Charles Leclerc, il est dans un état de frustration maximale. Il a quand même, il a quand même fait une décla après les essais et au moment de la qualif du sprint où il dit Ferrari est la seule équipe du plateau qui a régressé cette année. Enfin, les mots, ils sont quand même. Alors après, il s'est adouci. On a vu ses propos après la course, avant d'apprendre la disqualification, où il dit que pour le coup, ils ont de la perfo en course, mais par contre, que cette saison, ils n'y arrivent pas trop, Jean-Luc. En qualif, c'est ça qui est un peu surprenant en fait. T'as l'impression que les forces de la monoplace se sont totalement inversées par rapport à l'année dernière. T'as une voiture qui galère en qualif, alors que là, pour le coup, le rythme de course satisfaisait plutôt Charles Leclerc à la fin du week-end. Bon, Lewis Hamilton, il a vraiment galéré avec sa monoplace. Hein. Il a dit qu'en course, ça a été très difficile pour lui.
Bah oui, mais bon, ils sont clairement pas au niveau là. En tout cas, au niveau des McLaren déjà, puisqu'on va finir par en parler évidemment, qui vont écraser le championnat.
Personne n'est au niveau des
comme
McLaren, Jean-Luc. Hein.
Voilà, parti comme c'est. Non, mais on est d'accord. C'est-à-dire que on disait qu'on s'emmerdait avec Red Bull et avec Verstappen. Bah là, je peux vous dire qu'on est parti pour, à mon avis, un moment, hein, parce que du côté, même s'ils veulent pas qu'on le dise, et surtout les pilotes. Ouh là là, dites pas qu'on a la meilleure voiture. Ah bon, d'accord. Ok.
Heureusement qu'ils ont pas les meilleurs pilotes. Hein.
Ouais, on va pas le dire. Ouais, heureusement qu'ils ont les meilleurs pilotes. Mais c'est ce que ça sous-tend. Non, mais on la connaît l'histoire. Elle est vieille comme la Formule 1. Hein. J'ai pas la meilleure voiture, mais je gagne quand même. Bah oui, bien sûr. T'as raison, Toto. Non. Il se trouve que t'as les deux. T'es un très bon pilote et t'as une très bonne voiture. Bon, passons, on revient à Ferrari. Bah écoute, c'est une succession, c'est un cauchemar. Tu as dit ça, Alex, et ouais. C'est vrai que c'est le mot. C'est un cauchemar parce que je te dis, moi, je connais bien Fred Vasseur encore une fois. Et là, on peut dire qu'ils sont maudits, c'est le mot. Parce que bon, l'Australie, c'est l'Australie, avec des conditions difficiles, avec bon, ils se sont pris les pieds dans le tapis, les pilotes n'ont pas été excellents non plus, ils l'ont reconnu. Bon, ok, on arrive sur un tracé qui est connu. Alors, Charles peut dire, oui, il me convient pas. Peut-être, il l'aime pas. Mais tu sais, on aime toujours un circuit sur lequel on gagne. Hein, c'est aussi simple que ça.
Bah, oui.
Et sur lequel on a une bonne voiture. Bon, bah, c'est aussi simple que ça aussi. Les pilotes adorent les circuits sur lesquels ils gagnent. C'est aussi idiot que ça. Bah, Hamilton, il peut pas dire qu'il l'aime pas. Il a 6 pôles et 6 victoires. Donc, il aime bien le circuit. Donc, c'est pas un problème de circuit. C'est un problème de niveau de la voiture pour le moment. Qui va évoluer? Alors là, les deux disqualifications, j'en ai pas du tout parlé tout à l'heure, je vais en parler maintenant. Bah, c'est le règlement. Alors, on peut toujours pester contre les règlements qui sont trop durs, qui sont machin. Bah, ils sont appliqués à d'autres. Je l'ai rappelé avec George Russell, hein, qui a perdu pour 1 kilo également sa victoire. Et puis, je me rappelais, moi, de Schumacher, qui avait perdu également une victoire à Spa, décidément, il y a des années, pour une histoire de plancher en jabroc qu'il avait usé également sur les vibreurs. Bon, bah, c'est la même histoire. Les voitures sont réglées tellement bas pour avoir un maximum d'effet aérodynamique qu'évidemment, bah, on le voit bien, elles soulèvent des gerbes d'étincelles et puis tu te prends quelques vibreurs régulièrement et c'est terminé. C'est comme ça que tu bouffes le plateau. Alors, après, c'est à l'équipe, évidemment, c'est pas une faute du pilote, c'est à l'équipe ou de régler la voiture un poil plus haut pour que ça talonne moins ou effectivement, bah, d'avoir là aussi un plateau un peu plus épais pour qu'avec l'usure, il t'en reste toujours 9 mm. C'est aussi bête que ça. Alors, je comprends que ce soit un peu ridicule. Et puis surtout, les deux Ferrari exclus pour des raisons effectivement différentes, comme vous l'avez souligné.
C'est ça qui passe pas pour moi. Ben.
Ça passe pas, ouais. Là, je peux vous dire, bon, c'est pareil, c'est pas Fred qui va épeser les voitures et mesurer le plateau, mais là, il a dû souffler très très grave parce que ça, c'est effectivement, c'est une sorte de honte, quoi, pour la Scuderia en plus. Donc, j'espère qu'on va voir au Japon des Ferrari revenus à un niveau correct de performance déjà, parce que pour le moment, elles y sont pas du tout, hein. Même si la quatrième, c'est bien la Red Bull. Hein. Alors là, quand on va parler de Verstappen, lui, il a vraiment la quatrième caisse. Bah, il n'y a qu'à voir. Les talons, là, c'est Lawson pour le coup. Bon, voilà.
Mais te rends compte,
on est d'accord.
Verstappen, d'un tracteur, il t'en fait une F1. Il est incroyable.
Ah, il est exceptionnel.
Ah, il est incroyable. Non, mais vous voulez pas me croire, mais je vous dis que c'est le meilleur.
C'est le meilleur.
C'est peut-être grâce à lui qu'on aura un semblant de suspense pour le championnat du monde des pilotes.
Oui, potentiellement. Carrément, c'est ce que j'allais dire. On est d'accord qu'on est sur la période la plus difficile de l'ère Fred Vasseur là pour la Scuderia.
Quand il est arrivé, c'était pas joli.
Oui, mais il était dans la construction. Là, comme dit Alex,
c'est surtout les attentes. C'est que tu fais venir Hamilton pour gagner tout de suite. Hamilton, il arrive, il se retrouve avec Mercedes 2022. Qu'est-ce que je te dis, c'est pas même pire que ça. Donc.
Est-ce que je sais, je vais vous poser la question. On a disputé que deux courses, donc je grossis le trait. Oui. Mais est-ce que c'est déjà mort? Est-ce que c'est déjà mort pour le championnat, pour le titre constructeur?
Non. Il y a 24 courses. Non, mais il y a 24 courses. Donc maintenant, il n'y a plus que 22.
Bah non.
C'est long, c'est très très long. On a l'exemple de McLaren. Là, on est juste au-delà même de l'émotion. On est aussi dans le factuel. Vous avez vu que là, aujourd'hui, c'est la sonnette d'alarme qui est tirée chez Ferrari. Mais de là à dire que tout est fini, tout est terminé, c'est juste un rappel à l'ordre.
Non, mais attends,
suite,
Jean-Luc, je te pose la question parce qu'on sait qu'un week-end à zéro point, quand même. T'es forcément obligé de le compenser très très fort derrière et d'avoir des résultats marquants. Et le problème, c'est que devant, McLaren va très vite. Donc,
Oui, mais tu me vois venir, mon Nico. D'abord, d'une part, tu sais, toutes les périodes de domination, et c'est bête à dire, mais on l'a vu dans le passé, hein, avec Red Bull et avec Mercedes, ont une fin. C'est-à-dire que c'est plus tu avances, plus tu vas vers la fin de cette période. C'est logique. Alors, pour le moment, il peut faire le kéké, notre ami Brown, effectivement, en donnant des leçons de recrutement de pilotes à tout le monde et tout. Alors, lui, il me fait vraiment rigoler. Lui, dans la série des bouffons de Netflix, il est bien. Ah ouais, non, mais qui s'occupe de ses affaires. Ah, mais nous, on nous pique pas les gens. Ouais, bah, attends, tu vas voir, mon gars. Si on va pas te les piquer. Bon, passons. Ça, Aston Martin on referme le pari. Oui, oui, non, mais après, c'est, tout ça, c'est de la com. C'est ça qui me fait un peu gerber. Mais bon, peu importe. Donc, la domination de McLaren, pour le moment, elle est écrasante, soyons absolument clairs. Même s'ils bénéficient d'un excellent duo de pilotes, il faut le redire. Mais enfin, les autres, c'est pas des manches, quoi. Comme on vient de le dire, Russell, bah, ma foi, il s'affirme comme un bon leader chez Mercedes. Hein, vous êtes d'accord? Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a.
Verstappen, pas une voiture quand même, je trouve la Mercedes.
Pardon.
Ça va. La Mercedes, ça va quand même. Moi,
ouais,
pas...
elle est correcte. Non, mais elle est correcte. Bah, à l'heure actuelle, c'est la deuxième caisse du plateau.
Oui, hein, c'est ce que j'allais dire.
C'est tout bête. Hein, c'est la deuxième du plateau. Bon, bah, la troisième, peut-être, c'est la Ferrari, mais et puis la dernière du quatuor, en tout cas, c'est la Red Bull. Donc, effectivement, à partir de là, il va y avoir, pour répondre à ta question, non, c'est pas plié, parce que la capacité de réaction de Ferrari, à mon avis, est impressionnante, et je pense qu'on va voir ça rapidement. Et puis, encore une fois, on va avoir un vrai circuit sur lequel un circuit étalon de Dixit, les pilotes, les écuries et tout, ça s'appelle Suzuka. Et là on pourra reparler après vraiment à tête reposée, je dirais, du niveau de chacun.
Puis tu verras, Piastri ou Norris finira dans le gravier à Suzuka, il y en a au moins les deux.
Qui est taquin celui-là. On va parler quand même.
C'est vrai que c'était...
Oui,
ouais, c'est possible. Ouais. On va revenir quand même sur la victoire d'Oscar Piastri, troisième victoire de sa carrière. Avant de l'écouter, je me suis posé cette question, est-ce que c'est pas son week-end le plus complet en Formule 1? Il a dominé son coéquipier Lando Norris dès le début du week-end. Et voilà, il a vraiment réussi à trouver de la régularité. C'était aussi l'interrogation qu'on avait avec Oscar Piastri, hein, Alex, de savoir s'il était capable d'être régulier, d'enchaîner les perfs. Est-ce que pour toi c'est son meilleur week-end en Formule 1?
Bah factuellement ça l'est, hein. Victoire, première pole en carrière, deuxième de la sprint, il a marqué 32 points possibles sur 33 possibles, mais 32 points sur 33 points possibles, et il a fait aussi le meilleur tour en course absolu, le meilleur tour en qualification, donc le meilleur tour sur le circuit absolu. C'est le meilleur, on va pas dire que c'est le meilleur week-end forcément, c'est le week-end parfait, mais c'est le meilleur des week-ends qu'il a pu avoir dans sa carrière. Mais surtout une victoire qui a déjà du sens, c'est une victoire qui prouve qu'il est prétendant au titre. C'est peut-être bête de dire ça, mais enfoncer des portes ouvertes peut-être. Mais quand tu regardes la situation, tu sais que chez McLaren, t'as Lando Norris qui était le prétendant au titre l'an dernier. On va pas revenir là-dessus, il a fait beaucoup d'erreurs. McLaren a fait beaucoup d'erreurs dans la globalité. Oui. Aujourd'hui, Lando Norris, il a dit au début de saison qu'il pensait qu'il avait tous les outils pour se battre pour le titre. Et finalement, dès le deuxième Grand Prix, tu fais un tel week-end de course. Ah oui, clairement, oui, Oscar Piastri est un prétendant au titre avec la meilleure voiture. Curieux de savoir quand McLaren va gérer au bout du 14e, 15e Grand Prix, hein, quand les deux ont arrêté d'être très gentils l'un et l'autre au niveau en se faisant des politesses. Mais Piastri a montré une force tellement impressionnante. Il est en train de se construire comme étant l'un des meilleurs pilotes de la grille avec une force tranquille et surtout une capacité d'être clinique dans les moments importants et dans les moments importants. Et je suis curieux de savoir comment il va pouvoir aller batailler contre Lando Norris quand il va falloir, se batailler, j'ai envie de dire, dans les virages et non plus rester à distance comme là aujourd'hui. Lando Norris, il a été obligé de rester à distance de Oscar Piastri.
Et puis il voulait pas se rapprocher en plus.
Il voulait pas se rapprocher hein, parce qu'il savait que ses pneus allaient. C'est aussi le problème de la Formule 1, le dirty air. Et que moi, j'ai vraiment hâte de voir Oscar Piastri et Lando Norris se battre côte à côte parce que Zak Brown, il a dit, ils ont le droit de se battre. Bon. Est-ce que c'est la langue de bois?
J'aurais bien aimé qu'il se frite en fin de course. Il a dit ça, Zak Brown.
N'aime pas ce genre de déclaration. Ouais. Il a vécu des choses. Donc je pense que Zak Brown, il a peut-être envie de vivre ce genre de choses-là. Il va très très vite arrêter d'avoir envie.
Il peut déchanter. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il peut déchanter assez rapidement. On va écouter Oscar Piastri au micro de nos collègues de Canal+, qui diffusent le championnat du monde de Formule 1, bien sûr.
I always had Lando there or thereabouts, and I couldn't afford to.
J'avais toujours Lando plus ou moins derrière moi. Je ne pouvais pas me permettre de ralentir. Mais globalement, franchement, tout était sous contrôle. L'équipe a fait un super boulot, une bonne gestion de la course.
Ils m'ont donné plein d'informations.
Franchement, on ne pensait pas faire un seul arrêt, mais on s'est très bien adapté aux conditions de course. Donc je suis vraiment très heureux pour toute l'équipe. Voilà, Oscar Piastri, même dans ses déclats, dans ses retours après course là à chaud, il est très sobre, calme. Voilà, mais c'est vrai que
un peu ennuyeux.
Mais toi, il te fait pas. Oui,
ah, il s'emballe pas, c'est sûr.
Non, t'as pas le petit frisson pour Oscar, quoi, toi. Bah,
alors je vais pour aller dans le sens des propos d'Alex, je vais jouer sur la sémantique. Piastri a montré que Lando Norris n'était pas le candidat numéro 1 pour le titre de champion du monde, parce qu'il met le doute. tu vois, avec
où
il est devant à chaque fois. Qualif sprint, sprint, qualif course. Et c'est ça où moi je te rejoins, Nico, sur le fait, oui, c'est son week-end le plus complet parce qu'il était devant Norris au sprint largement. Ouais. Donc et je me demande, et si c'était pas Norris qui pourrait être le mieux placé. C'est vrai qu'on va attendre 5 courses pour vraiment voir une première tendance, mais déjà Suzuka, j'ai vraiment envie de voir. Alors c'est vrai que j'étais sévère sur ma note de 2 sur 5 parce que je trouve que le samedi était vraiment bien. Moi, il m'a hypé. Alors, la victoire de Lewis, mais le samedi m'a vraiment hypé. J'étais là, ouais, ça va être génial. Et le dimanche, j'étais un peu déçu. Donc, d'où ma note peut-être un petit peu sévère où je notais presque plus la course de dimanche. Mais j'attends vraiment de voir Suzuka pour le rebond Ferrari. Bon, on en parlera évidemment dans le warm-up, mais savoir si cette tendance Piastri beaucoup plus compétitive que l'an passé, où Norris avait fini par vraiment prendre le dessus et on voyait Piastri avoir du mal.
Et surtout à Norris en Australie, mis à part la petite erreur, la petite sortie au moment dans des conditions forcément qui étaient piégeuses, il a été parfait, Lando Norris, sur l'ensemble du week-end de Grand Prix. Là, on a surtout ressenti Lando Norris qui se cherchait dans la McLaren. Ce qui est la meilleure voiture, oui, mais il faut aussi prendre ses marques, trouver comment tu peux gérer cette dégradation automatique qui a été assassine, il faut le dire, en Chine. J'étais un peu bouche bée de voir quand même que Lando Norris, sans sprint, dans le paquet, ne pouvait rien faire. Et on a senti un certain traumatisme de la sprint quand elle a voulu essayer de suivre Oscar Piastri. Dès qu'il se rapprochait, il a fait « Ouais, non, la deuxième place, c'est bien, finalement. » Et puis après, il a reçu un problème de frein. On a eu peur pour que Russell vienne le dépasser, en plus. Donc,
Un tour près, il finissait pas de...
Pour ajouter à ce que vous avez dit, c'est quand même le 28e Grand Prix successif où il prend des points, le Piastri.
C'est énorme.
C'est énorme.
Ce que je trouve très fort, moi, Jean-Luc, c'est que mine de rien, Piastri, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais il passe complètement à côté de son Grand Prix d'Australie. Il termine 9e, il n'est pas dans le rythme, il est totalement éclipsé par Norris, et une semaine après, bam, il montre à tout le monde que, je suis passé à côté la semaine dernière, je me suis loupé, mais le potentiel, il est là, quoi. Et ça, quand même... Comme un peu Hadjar l'a fait ce week-end, c'est des mecs qui sont d'une trempe un peu différente des autres peut-être.
Enfin, t'es un tout petit peu dur, Nico, parce que quand même, il est sur la première ligne de la grille de départ, hein, côté
Norris.
Oui,
mais en course, ça se passe.
Alors, en course, là, il a pas de bol. Il se loupe tous les deux. Il y en a un, ça lui coûte rien. Norris, il revient sur la piste et il s'arrête au stand. Bien joué, impeccable. Alors que l'autre, il reste planté, évidemment, au milieu de la fange, à patouiller. Et il perd beaucoup de temps. C'est là que ça se passe mal pour lui, sincèrement. Comme les pilotes te le disent, et Norris l'avait dit aussi, tu sais, ils sont passagers, quand ils perdent l'adhérence, ils sont passagers de la voiture. Après, t'as un peu de chance, du talent, ils en ont tous. Enfin, c'est encore une fois, c'est pas des manches. Donc, on peut pas dire que c'est de la faute de Piastri s'il est resté planté dans le gazon, tu vois, à patouiller. Et encore, il s'en est sorti. Bon, mais je suis d'accord. Oui. C'était pas. Bon, enfin, il est quand même sur la première ligne de la grille de départ. Alors là, en revanche, et rappelez-vous aussi ce qu'on disait l'an dernier. Enfin, j'assume ce que moi je disais que attention, en 2025, ce sera certainement Piastri qui va sortir du bois, parce que c'est un type qui est d'une froideur, même glaçante, parce que moi je m'attendais quand même, après sa pole, sa première vraie pole, bon, il avait déjà été le plus rapide sur les coursinettes, je le fais exprès, comme vous le savez, sur les grilles de course sprint, il avait déjà signé le meilleur temps, mais bon, c'est pas une pole, là c'est sa première vraie pole de sa carrière, et là c'est quand même que sa troisième victoire, mais le ton du gars est vraiment étonnant, quoi. Il est plat. Il est content, il est satisfait, il a fait le boulot. Bah ouais,
on dirait presque un pilote finlandais ou scandinave, tu sais. Il est froid, il est. Tu sens un côté.
On dirait Raikkonen.
Tu sens un côté peut-être tueur. Que Norris, on dit souvent Norris, il est un peu gentil, voilà, etc. Et tu sens peut-être un côté plus tueur et froid chez Piastri.
Ouais. C'est un tueur froid, c'est exactement ça. Ouais.
On va écouter Lando Norris qui est revenu sur ses problèmes de frein lors de la fin de course.
It's quite scary in the end when you have no brakes.
C'est vraiment très effrayant de ne plus avoir de frein. Avec un ou deux tours de plus, je n'aurais très certainement pas fini la course car la pédale était au niveau du sol. Bon, c'était vraiment pas agréable. Surtout ici quand tu arrives au bout de la ligne droite, que tu appuies sur les freins et que rien ne se passe. Franchement, c'est mon pire cauchemar. Quand je me réveille la nuit en sursaut, c'est parce que la voiture ne freine pas. Donc, je suis chanceux. On est chanceux d'avoir pu finir la course. Et c'est un problème qu'on ne peut pas se permettre d'avoir à nouveau. C'est son pire cauchemar, les freins.
T'imagines, oui. Mais il a été bon quand même.
Pilotes, Parce que panne de frein, panne de frein au bout de ligne droite, tu peux rien faire là. C'est...
Ah bah, surtout que j'ai eu très peur sur le bout de la ligne droite, la piste d'aéroport là. C'est pas simple à gérer. Hein.
Parlons quand même d'Esteban Ocon, les amis. Camille
meilleur
un peu
pilote moteur Ferrari,
exactement.
Ben oui,
ouais, exactement. Meilleur pilote, ouais, moteur Ferrari, élu plus beau dépassement. Bon, il termine cinquième. Il a franchi la ligne en septième position et bénéficie Esteban des disqualifications des deux Ferrari. Jean-Luc, c'est un résultat qui est pas anodin. C'est seulement le sixième top 5 de l'histoire de Haas depuis 2016, quand même, depuis 9 ans. Donc c'est un résultat qui compte vraiment pour l'écurie. Et puis surtout, on a vu dans des manœuvres qu'Esteban Ocon, voilà, il voulait lui aussi, par rapport à la semaine dernière, laver un peu cet affront-là avec une Haas qui a été au rendez-vous.
Ben voilà, écoute, les As étaient nulle part effectivement en Australie. Et là, ben, on peut dire qu'on les a retrouvés parce qu'en fin de saison dernière, vous vous en souvenez bien sûr, elles avaient redressé la tête, hein, ça allait beaucoup mieux. Ben là, moi, je suis absolument ravi pour Esteban qui fait un Grand Prix formidable. Bon, ben là, évidemment, il bénéficie du déclassement des deux Ferrari, mais sinon, il était septième, il a fait le boulot, des très beaux dépassements, effectivement, une voiture solide, bien réglée. Et puis, évidemment, le bonheur de As est complété par le fait que Berman, lui aussi, termine dans les points. Donc c'est quand même plutôt ciao. Pas mal, mais ciao et ciao à Carlos Sainz quand même. Bon, c'est un peu dur. C'est un peu dur.
Ouais, moi j'ai trouvé, je me suis demandé est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ce qu'il fait. Gros, tu dépasses le 16e,
mais bon, après, tu parles de la réflexion,
oui, du ciao.
Ouais, non, bah ça, bah c'est une plaisanterie de gamin. Oui. C'est un gamin, il a 19 ans, il se marre et il est dans une voiture qui marche bien et il dépasse des types. Bon, bah voilà, c'est tout. Faut pas le prendre pour autre chose que ça.
Bon, Ocon, en tout cas, il a prouvé qu'il avait pas perdu son sens de l'attaque. Il y a cette bagarre là à 3 là, Arnaud, avec Tsunoda, Antonelli, où il fait une manœuvre de dingue, il met ses roues dans l'herbe, Esteban. Agressif.
Ouais, là-dessus, était incroyable, Esteban. C'est toujours un pilote que j'adore et de le voir. Dans cet univers, c'est vrai qu'Alpine ça a été difficile à la fin. Après, est-ce que là, on voit quand même un petit peu un déficit de vitesse hein, sur les grandes lignes droites. Donc j'attends de voir, mais bon, c'est déjà des points pris et écoute, on a envie de voir ça. Berman a fait quand même aussi une énorme remontée. Hein. J'étais quand même bluffé, je le voyais en fond de classement et là, je gagne pour finir dans.
Pour moi,
lui,
c'est l'exploit de la course, hein, sérieusement. Hein. Sa remontée, elle est canonesque. Hein,
Antonelli, les pilotes du jour, mais pour moi, c'est soit Esteban Ocon, soit Liam Berman.
Moi, j'ai pas compris, oui, Antonelli, c'est bien ce qu'il fait, mais il part 8, il finit 6, là, et avec les déclassements, bon, c'est pas mal, mais je veux dire, ce que fait Berman, c'est plus fort, pour moi.
Oui. Je suis d'accord. On va écouter Esteban Ocon sur cette cinquième place.
C'était beaucoup de stress parce que c'était pas le plan qu'on avait prévu avec la stratégie. On était parti plutôt sur un deux arrêts, mais vu comment la dégradation était plus basse que prévu, tout le monde a changé les plans pendant la course, mais la voiture a vraiment pris vie. Voilà, avec ses pneus, quand les autres commençaient à dégrader, j'ai vu que j'avais le bon rythme. Il nous manquait un petit peu de vitesse en ligne droite et quelques petits trucs par-ci par-là, mais honnêtement, voilà, ça fait plaisir. D'où on partait à Melbourne, je pense que tout le monde est hyper content. On a vraiment réussi à retourner la situation en une semaine, ce qui n'était pas non plus ce qu'on pensait qu'elle allait arriver. Mais ça montre que on sait où on va. Il y a encore du potentiel sur cette voiture. On l'a montré aussi dans les quelques derniers tours de cette course. Et voilà, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là pour cette saison.
Ocon avec Canal+ à la fin de la course. Alors là, au moment où il parle, hein, il ne sait pas qu'il est cinquième. Hein. Y a quand même un truc.
Parce que déjà, P7, on était très contents. Hein.
Oui,
oui, c'était déjà magnifique.
Il
y
a quand même un truc, un peu une part d'irrationnel encore dans cette saison. Tu as quand même la sensation que des pilotes et des écuries font des résultats, mais que tu ne sais pas d'où ça sort. Quand il dit la voiture prend vie là, pendant la course, clairement, tu sens qu'ils ne s'attendent pas à être là, les As. Hein.
Mais écoute, c'est la clé de cette saison. On l'avait dit avant, hein, donc c'est facile de le dire déjà après deux courses. C'est qu'effectivement, les écarts sont tellement réduits maintenant, mais vraiment, vous avez vu ça, hein, c'est ridicule sur la grille. Et je regardais le temps, vous savez que j'adore ça, le temps en course d'Esteban, il est excellent. 1:35.740 au dernier tour, hein, carrément. Donc ça veut dire que, alors qu'il avait changé de pneumatique au 12e tour, Donc c'est ahurissant. Alors on connaît sa capacité à gérer également les pneumatiques, mais ça veut dire que en fin de course, avec une voiture évidemment très légère et un train de pneumatiques notoirement carbonisé, bah il arrive à faire un tour qui est tout à fait honorable. Hein. Ça le met à 2-3 dixièmes seulement des plus rapides. Donc bah, y a du potentiel dans cette voiture. Et pour reprendre ou répondre à ta question, Nico, bah, on ne sait pas où on va et eux non plus. Ils vont découvrir à Suzuka s'ils sont 2 dixièmes devant ou 3 dixièmes derrière. Parce que c'est vraiment ça l'histoire.
Sais, bah, son 1.35.7, c'est tout simplement le cinquième meilleur tour en course.
Et voilà.
Ouais. Là, c'est les 4 pilotes au-dessus, c'est Hamilton, Norris, Verstappen et Piastri. Et sinon, Russell est allé un peu moins vite en course. Donc ça montre. Et écoute, on va voir.
Et Antonelli aussi. Hein, oui. Antonelli, il est moins rapide de 3 dixièmes. Donc tu vois, c'est pour ça. Bon, enfin, je vais bien, c'est la coqueluche du moment. Bon, c'est le fils adoptif de Toto, je le rappelle tout le temps.
Mais pour te rejoindre sur le fait des écarts très faibles, on a aussi énormément de pilotes qui ont changé d'écurie. Donc il faut aussi apprendre à connaître ces nouvelles monoplaces pour tout le monde. Les nouvelles procédures, les nouveaux modes aussi. Donc je pense que ça rebat aussi pas mal de cartes sur le début de saison, sur sa connaissance, parce qu'on est certes en fin de réglementation, donc globalement, les ingés, ils maîtrisent la voiture, mais par rapport au ressenti du pilote, je pense que ça met encore un peu plus de... ça resserre encore un peu plus tout le monde.
Ouais. En tout cas, on parlait des line-up de pilotes attractifs là en début de saison. On avait beaucoup parlé de Ocon et Berman chez Haas. Et là, sur cette course-là, on a vu tout le potentiel, Alex, de ces deux pilotes hein, et du coup de cette écurie.
Mais c'est ça, en fait. C'est que pendant les previews, je pense qu'on voyait tous Haas se battre pour la cinquième place. C'était l'Australie, contrairement à la Skoda Ferrari, l'Australie était bien un accident pour l'écurie Haas. Je considère moins, par exemple, pour Ferrari, l'Australie comme un accident au vu de ce qui s'est passé, du rythme qu'il y a pu y avoir, justement, que ce soit en Chine, mais également, donc, du coup, en Australie. Là, le travail de Haas, le travail de récupération, le travail de sauvetage, même par rapport à une voiture où Hayao Komatsu, le patron de l'écurie, disait qu'elle était cassée. Je pense qu'elle était vraiment cassée et qu'il y avait vraiment eu un problème de compréhension sur comment faire fonctionner une monoplace Formule 1. Voilà, tout simplement, du côté de chez Haas. Et là, la manière dont ils ont réussi à retourner la situation, elle est admirable. Elle prouve le vrai potentiel de Haas. Donc, ça veut dire que si dès le deuxième Grand Prix, tu peux produire une telle performance et te reprendre assez rapidement, ça apporte une bonne augure pour la suite de la saison. Que ce soit pour Berman, qui a été, pour son deuxième Grand Prix en tant que pilote titulaire, il a été au niveau et surtout, lui aussi, il s'est bien récupéré d'un week-end catastrophique en termes de niveau et d'erreur par rapport à ce qui s'est passé en Australie. Et pour Esteban Ocon, Esteban Ocon, pour moi, c'est l'un des joyaux de la Formule 1. Et c'est un pilote sur qui tu peux toujours compter. Un pilote qui a été un leader du côté de chez Alpine, même quand il y avait Fernando Alonso, même quand il fallait tenir une écurie qui était catastrophique, il était là, il faisait ce qu'il fallait. Et on lui a manqué de respect derrière. Et là, aujourd'hui, du côté de Chaz, il montre à quel point c'est un pilote sur qui on peut toujours compter, peu importe la situation. Et même quand ça a été aussi catastrophique en Australie. Et même en Australie, il termine 12e, pas loin des points. Hein. Finalement, même sur les compétitions,
tout à fait.
Et là aujourd'hui en Chine,
il est tellement solide.
C'était pour moi, c'est l'un des meilleurs pilotes de la
Formule 1. Psychologiquement, alors lui, c'est un rock. Hein.
Ah oui,
clairement. Il a prouvé. Ouais. Hein. Ah ouais.
T'as vraiment la sensation.
C'est l'école Racing Point quand tu t'es fait tasser par Sergio Perez en tout début de carrière.
Ah bah là, ça fait après.
Ouais, ouais. Ah non, il a du caractère, le garçon.
Olivier Berman, on a parlé de sa course folle. Il part P17. Hein. Il termine dixième du coup, huitième au final avec les disqualifications.
Mmh. Il vient pas se mettre en SQ3, Berman ou en SQ2 où il se met pas, il se classe pas hyper haut non plus. Je crois pour la sprint de mémoire.
Ouais, pour la sprint, il fait peut-être sa petite Q2. Alors attends, je vais te dire ça tout de suite.
Il est en SQ2 en plus. C'est Ocon qui, c'est l'inverse, c'est Ocon qui rate la séance de qualification.
Il est 12e.
Ouais, voilà.
Il est 12e en 1.31.978.
Donc ça veut dire que sur un tour, même en médium, certes, allez, on va dire ça, c'est la SQ2, mais c'est quand même sur un tour, la Berman dans la Haas a de quoi réellement déjà sortir un bon potentiel. Donc c'est réellement de bon augure, que ce soit en rythme de course, mais également en rythme de qualification.
On va ouvrir le dossier Red Bull Racing Bulls.
Je pensais que tu allais dire Alpine.
Il n'y a pas de dossier.
Le
problème de Alpine, c'est qu'on n'a pas encore créé le dossier. Bon, ça arrive, hein, mais.
Tu veux dire le dossier Enstone?
Pas de dossier, hein, c'est ça. Pas de dossier.
Dossier Enstone, voilà.
Le dossier Enstone, on va le faire. Non, et on va parler de Liam Lawson qui vit un début de saison ultra compliqué. Juste avant, Jean-Luc, je voulais quand même te faire réagir sur la perf d'Adjar ce week-end. On en a parlé. On avait débriefé son erreur en Australie. On était tous à peu près d'accord autour du plateau pour dire que c'était un pilote agressif, que c'était quelqu'un qui avait vraiment la mentalité pour faire face à tout ça. Il l'a prouvé ce week-end, Isaac. Ça s'est pas matérialisé pendant la course parce que eux, stratégiquement, c'est la seule équipe qui décide de faire deux arrêts et de pas s'aligner sur une stratégie à un arrêt. Mais par contre, il a été très rapide. Hein. 7e place en qualif pour Isaac Adjar. Il a marqué les esprits quand même, Jean-Luc.
Ah oui, là, il fait du très très bon boulot. Il démontre qu'effectivement, bon, on va pas en parler toute la saison ou toute sa carrière. Bon, il s'est pris les pieds dans le tapis en Australie. En plus, bon, encore une fois, je sais qu'il y a tous les réseaux sociaux là aussi. Chacun a commenté son attitude. Bon, il nous appartient pas de la commenter. C'est du privé. Il réagit comme il peut ou comme il veut. Peu importe. Ce qui compte, c'est la piste. Pour moi, c'est le circuit. Et là, il réagit magnifiquement. Effectivement, il se qualifie très très bien. Il se qualifie juste un rang devant, une ligne devant Tsunoda. Hein, donc, c'est vraiment du très bon boulot en course. Alors, moi, je mets un petit bémol quand même, hein, parce que surtout avec une course comme celle-là. Alors, je sais qu'il y a l'erreur. On l'arrête une deuxième fois. On est d'accord. Mais même avant ça, il se bat pour la quatorzième place. Ouais.
Ouais.
Alors,
oui.
Bon, faut attendre un peu, sincèrement, et c'est le service à lui rendre, sincèrement. J'ai déjà entendu parler du nouveau Prost. Bon, faut arrêter avec ça.
Non, faut on laisser l'a fait. Les gens tranquilles. Moi, c'est vrai que ça.
Mais
c'est
moi,
vrai.
Je l'avais entendu avec Yannick Dalmas à l'époque, qui est un très bon copain avec tout le monde. Enfin, de toute façon, c'est ça aussi.
C'est
je vais être cru, aussi. Je vais être méchant. Hein, que les gens qui connaissent rien à la Formule 1 disent c'est le nouveau Prost. Bon, on va attendre. Laissons-lui déjà monter sur un podium. Laissons-le. Bon, c'est très bien ce qu'il a fait. Encore une fois, je ne diminue pas. C'est très bien. Surtout par rapport à Tsunoda. Maintenant, on faut attendre encore un petit peu. Moi, en course, j'étais un peu sur ma faim. Il n'arrivait pas à déborder Douane. Alors, ok, Douane l'a tassé une fois et tout. Bon, ça, on est d'accord.
Il a pris 10 secondes.
Non, mais c'est une chose. Mais il n'est pas parvenu à le passer quand même. Lui,
ouais, c'est vrai.
Et ouais, lui, il a une racing bull, etc. Et l'autre est quand même dans une trapanelle et il n'arrive pas à le dépasser. Et c'est un rookie comme lui. Hein. Donc, si tu veux, bon, c'est bien ce qu'il fait. C'est très bien en qualif, c'est bien en course. Mais voilà, stand by pour le moment. On va lui laisser un peu de temps.
Ouais, parce qu'on rappelle que Adjar, là, sur les trois sessions, Q1, Q2, Q3, il fait mieux que Tsunoda. Et quand on voit la forme de Tsunoda, voilà. Quand même, ah ouais, depuis quelques mois, ça, c'est fort.
On respecte.
Ah, bah, on y arrive. On écoute Isaac Adjar.
Vaut mieux peut-être mettre Isaac dans la Red Bull.
Non, c'est loin de tout ça.
D'accord, oui.
Ah, ce serait lui brûler les. Là, ce serait pas mal.
Là,
c'est le cramer
notre Isaac.
Je suis d'accord.
Ah, ouais, là, on va le griller.
C'est le cramer.
Je pense que tu mettrais n'importe qui dans cette deuxième Red Bull, ça serait aussi catastrophique. Parce que c'est peut-être ça le vrai problème, parce qu'on tombe sur tout le monde. Mais
là, on sait le débat avant.
Bon, c'est ce que j'allais dire, mais allons-y. Mais non, mais lançons le débat, on écoutera Isaac plus tard.
Si,
il y a pas de problème.
Écoutons Isaac.
Bon, allez Isaac Adjar.
Je savais pas que c'était si obvious que le one-stop était plus rapide. Bon, alors, moi, honnêtement, je suis satisfait, à part le tour 1 où vraiment j'ai pris un super départ. Enfin, l'envol était excellent. J'étais à côté de, je crois, Charles au 1 et après. C'est un peu une piste où tu dépends de ce qui se passe devant toi et Lucky a été très agressif au début, il a réussi à prendre la position. Mais après honnêtement moi je pense que j'ai fait une très bonne course. J'étais toujours plus rapide que les voitures devant moi. À un moment donné même j'étais menaçant sur Antonelli. Donc, je pense qu'on était rapide, moi j'ai fait une. Je suis content de ma course.
Ça lui a permis de se rassurer, ce Grand Prix, Isaac Adjar, et de lancer définitivement sa saison de Formule 1. Arnaud, vas-y. Le débat, qui dans la Red Bull aux côtés de Max Verstappen. On va quand même rappeler que Liam Lawson a fait encore un Grand Prix désastreux.
Même avec la disqualification, il rentre pas dans les points.
Ouais, exactement. Je vais vous lire quand même les propos de Christian Horner, où tu sens que ça commence à chauffer. Tu lis entre les lignes, bien évidemment. Horner, il a déclaré « Lawson a encore du potentiel, mais nous ne nous en rendons pas compte pour l'instant. Je pense que le problème pour lui est qu'il a eu deux week-ends très difficiles. Bon, » merci Christian. « Et surtout qu'il a tous les médias sur le dos. La pression augmente naturellement dans ce métier. Je suis désolé pour lui. C'est très dur pour lui en ce moment. C'est un jeune pilote. Nous avons le devoir de nous occuper de lui. » Nous avons fait de notre mieux pour le soutenir. C'est toujours un pilote très compétent, mais nous ne le voyons pas. Donc voilà, pour
arrête
une raison
cacher, là,
ou une autre, nous ne le voyons pas capable de performer pour l'instant. Il termine comme ça quand même.
Ah bah ouais. Alors, mais c'est pourquoi... maintenant qu'il faut performer, c'est maintenant les courses. Hein.
Ouais. Moi, je me pose la question de pourquoi, en fait, n'importe quel pilote dans la Red Bull numéro 2 n'y arrive pas. Est-ce que, déjà, la voiture, effectivement, elle est... pas aussi bonne que ça quand on voit ce que fait Max, parce que Max surperforme. Mais est-ce qu'elle est tellement faite, les moindres petits réglages, elle est tellement faite dans le sens de Max Verstappen que pour un autre pilote, elle est inconduisible? Ça, je ne sais pas, mais je me pose la question. Et puis, à un moment donné, quand tu mets autant de pilotes différents et que c'est toujours la même chose et ça ne marche pas, ben c'est de la faute du management de Red Bull, en fait.
Sincèrement, Arnaud, tu sais, effectivement, l'histoire prouve, et tu le sais très bien puisque tu connais ça par cœur aussi, que effectivement, dans une mauvaise voiture, eh ben, un excellent pilote fait la différence. Dans une excellente voiture, eh ben non, c'est presque gommé. Tu comprends ce que je veux dire? Et je vais pas taper sur la tête de Sergio Pérez qui a quand même fait des saisons formidables. Il a été vice-champion du monde quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Donc quand tu as une excellente voiture, bah effectivement, écoute, on l'a vu chez Mercedes. Je vais pas vous citer toutes les années, ou chez Ferrari, où le coéquipier avait l'ordre, vous savez, pour ne pas dire plus que ça, la consigne de se coucher par terre devant Schumacher. Bon, bah il arrivait quand même à gagner les courses quand Schumacher avait un problème. Donc quand t'as une voiture qui domine tellement la situation, tu mets un pilote, je vais pas dire moyen, c'est insultant, tu mets un bon pilote dedans, bah il arrive à gagner les courses ou à être sur la première ligne. Quand tu as une Trapanel, et là effectivement la Red Bull depuis le milieu de la saison dernière, c'est extrêmement difficile à piloter, bah il faut une étoile, il faut un Verstappen, je veux pas en faire trop non plus, pour arriver à en tirer le meilleur. Une nouvelle fois, mettons Verstappen, et on l'a dit lors du dernier paddock, mettons Verstappen dans une McLaren, vous allez voir ce qu'il va en faire. Eh oui, et je suis désolé, hein. Ouais. Il va en faire encore mieux que ce qu'en font les deux autres, c'est mon avis en tout cas.
Bah mais est-ce que ça a quand même aucun sens, Alex, là, cette histoire? Lawson, il a deux courses seulement et on le sort. Ils sont en train de réfléchir sur le fait de le sortir peut-être avant Suzuka. Ça devient quand même n'importe quoi. Sachant que c'est un pilote qui a 12 Grands Prix, enfin maintenant 13. Donc oui, il a une petite expérience. Et on est d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas au rendez-vous. Mais tu le tues au bout de deux courses.
En fait, ça n'a pas aucun sens parce que en fait, finalement, Red Bull est totalement perdu. Red Bull s'est perdu dans sa Verstappenisation de la voiture au point où aucun pilote, comme tu le dis Arnaud, ne peut piloter cette RB21.
Depuis le départ de Ricciardo.
Depuis le départ de Ricciardo.
Ils ont brûlé Gasly, ils ont un peu brûlé Albon.
Et je vais aller plus loin. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un Fernando Alonso, qu'un Lewis Hamilton ou même qu'un Charles Leclerc pourrait performer dans cette RB21? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'elle est tellement unique et a tellement une singularité vis-à-vis de Max Verstappen que je pense qu'elle est impilotable par rapport à cette sensibilité poussée à l'extrême et avec un Max Verstappen qui est unique dans son pilotage, que personne ne pourrait piloter cette voiture. Liam Lawson n'est pas devenu, c'est pas devenu un horrible pilote tout d'un coup. C'est un très bon pilote, Liam Lawson. Allez, à la limite, bon pilote par rapport à ce qu'il a produit dans les Akasha Perbé. Quand Verstappen il dit que Lawson serait certainement plus rapide dans la V-Carb, je pense qu'il a totalement raison. C'est juste que cette voiture, ce problème de la voiture numéro 2 du côté de chez Red Bull est un problème qui sera finalement éternel. Mettez Tsunoda, bien sûr, qui mérite amplement d'aller du côté de chez Red Bull. D'ailleurs, mon humble avis, il aurait dû être du côté de chez Red Bull par rapport à ce qu'il a produit par rapport à Liam Lawson et par rapport à ce qu'il a produit pour toute son œuvre du côté de chez AlphaTauri et ensuite du côté de chez Akasha Perbé. Mais on va le mettre au Japon, dans la RB21. Une circuit aussi, tellement magnifique, mais tellement complexe, avec une voiture qui est tellement complexe que ça
rend. Une pression devant son public.
Mais une pression devant son public, qu'il peut être prêt, il dit qu'il est 100% prêt, bien sûr, Tsunoda. Mais c'est également un cadeau empoisonné. Et quoi qu'il en soit, et que devienne peut-être la situation de Liam Lawson, qui est lunaire, il faut le dire. Tu fais tout un tatamar sur Sergio Pérez, à juste titre, parce que je pense qu'on était au bout d'un cycle pour Sergio Pérez, qui pourrait potentiellement revenir en Formule 1 l'année prochaine, mais lui il doit se dire qu'est-ce que je rigole de cette situation, ils m'ont viré pour finalement être dans une pire situation que l'année dernière, parce que là c'est ça, c'est juste factuel, aujourd'hui Red Bull est dans une pire situation que l'an dernier. Faut quand même se rendre compte que sur les 20 derniers Grands Prix, le deuxième pilote de Red Bull, donc Max Verstappen, l'autre pilote, 49 points depuis le Qatar. Max Verstappen, il a marqué tous les points 2024, il a marqué tous les points de Red Bull. Mais c'est une situation de perte totale dans cette stratégie du côté de chez Red Bull. Et même, je vais aller plus loin, pensez à l'avenir, pensez au départ de Max Verstappen. On fait comment chez Red Bull? Verstappen, il peut partir dès la fin de cette saison.
On va vendre des boissons.
Bah, c'est... si Verstappen part, Red Bull est perdu. Red Bull, ça devient pire que Visa Cacha Perbé si Verstappen y part. Donc voilà, aujourd'hui, Red Bull est totalement perdu. Et je pense que même là, la situation devient tellement dramatique que même si tu mets Lawson, même si tu mets un Tsunoda, même si tu mets un Hadjar, même si tu mets un Arvid Lindblad, même qui peut arriver plus tard, même si tu mets un Franco Colapinto, allez, on va dire ça ainsi, ça sera la même situation.
Il va falloir acheter le contrat.
Ah bah oui, c'est comme ça. C'est une situation.
Voilà, c'est très cher. C'est très
mais
cher.
C'est une situation qui est catastrophique et qui est tellement pénante parce que. Enfin, quand même, on est quand même basé sur.
En fait, Alex, mais moi, ce que je comprends pas, les gars, Arnaud, en fait, du coup, c'est les déclarations d'Horner. Si tu sais que le problème, au final, du coup, c'est pas forcément le deuxième pilote, c'est plutôt comment t'as construit
le problème,
ta
en fait,
monoplace.
C'est le manager,
voilà, le problème, c'est. Mais alors, pourquoi
c'est
tu
Marco,
pas...
c'est Horner. Moi, en fait, c'est... quand j'écoutais Alex, je me disais, mais c'était tellement logique et cohérent de dire, bon, écoute, on fait monter Tsunoda. Oui. De toute façon, ça sera pas un mauvais choix. Peut-être que ça a pas marché, mais au moins, on met Lawson avec Hadjar dans la V-Carb. Vous vous développez, les gars, pour que ça se passe bien. Vous apprenez votre métier. Et Tsunoda, qui commence à avoir beaucoup de grands prix quand même,
oui,
à son bagage. Je suis pas un grand fan. J'aime pas trop Tsunoda, mais voilà, quand tu vois le nombre de saisons qu'il a et les perfs qu'il arrive à avoir, bah, écoute,
89 grands prix.
Voilà, on te met. C'est 89 grands prix dans la Red Bull numéro 2, il y a une forme de cohérence. Après, ça marche ou ça marche pas, mais au moins, tu te dis, d'un point de vue stratégie d'entreprise, statut, etc., c'est logique, c'est cohérent. Et là, ils se retrouvent au bout de deux courses à gérer encore une situation où ils vont cramer un jeune pilote qui va avoir du mal à s'en remettre, qui s'en remettra peut-être, mais il te faut un petit délai.
Quand même, hein. Alors, franchement, qui s'en remettra peut-être, bon courage pour le sauver, hein, parce que tu, au bout de deux grands prix dans l'écurie Rennes, tout d'un coup, on te dit, allez, tu redescends, merci. Voilà, c'est un peu. Je vais aller plus loin, c'est que je trouve que chez Red Bull, c'est qu'ils se sont rendus compte de leur. Je peux dire qu'on peut dire de leur connerie, parce que si au bout de deux grands prix, ils se disent, ah, ça va pas le faire, ils sont pas bêtes. Ils comprennent que. Ça matche pas. Je dirais pas que Lawson chez Red Bull, c'est un échec. Je dirais juste que ça marchera pas. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont vu au niveau des datas que son style de pilotage et la voiture, ça ne peut pas fonctionner. Et autant arrêter les frais tout de suite, parce que Red Bull est dans l'urgence. Red Bull est dans l'urgence. Ils peuvent pas. Tu regardes la bataille aux constructeurs. Et il faut absolument avoir un deuxième pilote. Alors peut-être que Tsunoda fera un petit peu mieux et arrivera à aller dans les points. Pourquoi ? Parce qu'il a de l'expérience, tout simplement. Il peut supporter mieux la pression. Mais ça sera pas. Immensément mieux que Lawson. Red Bull est tellement de l'urgence qu'ils sont obligés de faire des choix qui sont, il faut le dire, absolument stupides. Le mec, il n'a pas. RB21, même pas d'essai hivernaux. Allez, mon courage, allez, on te regarde.
Alors, c'est vrai que là, bon, la critique est aisée, c'est le cas de le dire, et il y a matière, encore une fois. Y a
ça nous fait plaisir de critiquer Horner.
Ici, ils sont mis tout seuls. Mais sincèrement, faut quand même pas oublier tout ce qu'ils ont sorti. Hein.
Ah oui, mais je suis d'accord. Ah oui.
Voilà, je vais quand même commencer par Vettel, évidemment. Ricciardo, enfin, ils ont piloté ailleurs, mais je veux dire, c'était pas. Et puis, évidemment, Verstappen. Il y a pas eu que des mauvais. Alors là, c'est vrai que cohabiter avec un monstre, de toute façon, c'est toujours très très difficile. Et la tendance de l'écurie, quelle qu'elle soit, c'est de privilégier ce monstre-là. Hein. C'est ce à quoi on peut éventuellement assister. On en parlera plus tard dans la saison avec certaines autres écuries, mais vous me verrez venir. C'est que si on commence à privilégier, à tout faire pour qu'il y en ait un qui réussisse, c'est forcément au détriment de l'autre. Hein. Alors après, c'est vrai qu'il y a des styles de pilotage, c'est vrai, pour ne pas le citer, Hamilton a bien dit qu'il avait dû modifier son pilotage pour l'adapter à celui de la Ferrari. Bon, on a vu avec cette victoire en sprint race, maintenant que ça peut marcher, hein, ça peut fonctionner comme ça. Donc un excellent pilote peut adapter son style de pilotage, c'est là que je voulais en arriver, aux caractéristiques d'une voiture. Alors tu évoquais, Alex, justement, le fait de, qu'est-ce que si on mettait Alonso, si on mettait Hamilton même, qu'est-ce que ça donnerait? Bah, on le saura jamais, malheureusement, mais je pense qu'il ferait un petit peu mieux que le pauvre Lawson, que je ne vais pas enfoncer non plus, il est déjà sous l'eau. Mais bon, là, il était un peu tendre, c'est tout. C'est une promotion, effectivement, qui est à peu près injustifiée, et c'est logiquement Tsunoda qu'il fallait mettre dedans, voilà. Et moi, j'espère qu'ils vont attendre un peu, c'est tout. Et aussi pour Tsunoda, parce que le mettre au Japon, dans une Red Bull, je suis pas sûr que ce soit un cadeau.
Je vais même aller plus loin. Imaginez, Tsunoda, ça marche pas. C'est au même niveau que Lawson, on fait quoi?
Ouais.
C'est... Bah oui, bah. Je sais plus. On rappelle Perez.
Et surtout que même par rapport à Helmut Marko, les propos sur Yuki Tsunoda, alors là, c'est du jour à nuit. Hein. L'année dernière, c'était le paria absolu. Ouais. Là maintenant, Helmut Marko, c'est limite, c'est le meilleur ami de Yuki Tsunoda. Hein. Il a changé, c'est plus le même, de toute évidence, il a une approche différente, il est plus mature.
Il a changé son environnement.
Il a changé son environnement, bah oui, c'est vrai que du jour au lendemain, il a changé. Non, c'est clownesque comme
Ferrari. Non, mais peut-être que si Tsunoda, ça marche pas, et là,
tu changes un peu ta manière de fonctionner et de travailler pour cette deuxième voiture. Alors, je ne sais pas si c'est faisable au niveau financier et tout ça, mais peut-être que là, si
tu. Je ne pense pas que ce soit ça le problème, tu sais, mon Nico. Ouais, là, à ce niveau d'écurie, ce n'est pas un problème financier. C'est que la mayonnaise, effectivement, ne prend pas. Et puis, effectivement, ils ont une telle perle avec Verstappen, personne ne peut le nier, qu'effectivement, quand lui demande quelque chose, c'est fait immédiatement. Est-ce que c'est le cas pour le deuxième pilote? On avait eu dans le passé, vous le savez bien, même des pilotes français qui ont roulé. Il se trouve que je connais très très bien Seb Bourdais, hein, vous vous rappelez, à l'époque, qui déméritait pas. Sauf que Bourdais, il est tombé sur Vettel, c'est pareil. Et la bascule, ça a été le fameux Grand Prix de Monza, que Vettel gagne sous la pluie et où malheureusement Seb a un problème mécanique. Bon, tu sais, quand on refait l'histoire comme ça, il y a toujours des raisons pour lesquelles ça tourne dans le sens d'un et pas de l'autre. Alors, il faut beaucoup de talent, il faut beaucoup d'opiniâtrité et puis il faut pas mal de chance au bon moment quand même. Hein.
Ah oui. Un peu de réussite, ça c'est clair. Les gars, merci beaucoup. Vous voulez revenir sur un petit fait là?
Bah oui, on n'a pas parlé de Russell quand même. Enfin, il faut pas l'oublier. Bah, c'est pas mal ce qu'il fait. Hein. Il est troisième au championnat. Alors là, par parenthèse, vous avez vu comme c'est serré. Hein. Verstappen 36, Russell 35, Piastri 34. Là, je peux vous dire que bon, si devant, effectivement, pour le moment, Norris a l'air tranquille, mais ça va être chaud derrière. Et puis, il fait du bon boulot avec la Mercedes. Là, c'est pour ça. Encore une fois, Antonelli, très très bon jeune pilote, très bon début, il n'y a rien à dire, c'est super, mais n'oublions pas Russell, les gars, quand
et
même.
Et on aura pour les Williams aussi.
Ah oui. Moi, les Williams aussi. Voilà. Sinon, il y a une petite actualité, hein, juste comme ça, les V10 hein, qui reviennent.
Mais moi, je vais entendre mon Jean-Luc sur les V10 quand même, avant
qu'on rejoigne. Je vais totalement poser à Jean-Luc.
Je vais avec plaisir vous parler du V10, mais vous allez voir, vous allez apprécier. Et d'ailleurs, par parenthèse, hein, vous savez que le son qui accompagne notre émission là, vous m'avez compris. C'est un V10, évidemment. D'abord, on a les poils qui se dressent, donc on a compris que c'était un V10, c'est tout, je l'ai dit.
juste en parallèle, moi, je trouve que c'est une connerie de les faire revenir dans ce contexte-là. C'est-à-dire que d'arrêter une réglementation en mode allez, on arrête, on a travaillé comme pas possible, on a fait venir Audi pour ça, on a fait revenir Honda pour ça, tout d'un coup, pour leur
Audi
dire.
Audi qui est pas content en plus.
Audi qui a publié aujourd'hui.
Quand t'as commencé à investir beaucoup.
Mais je trouve que là, pour le coup, c'est aussi très très clownesque que cette direction de la Formule 1 d'agir ainsi.
C'est trop précipité, mais on réagit comme sur Netflix. Ça y est, je l'ai dit.
Merci beaucoup les gars, on se retrouve dans une grosse semaine pour le warm-up du Grand Prix du Japon à Suzuka. On a hâte de voir la Grand Prix. Chaque fois ce Grand Prix du Japon, ça lance vraiment la saison. J'ai la sensation.
Et encore très tôt.
Ça
va être encore très tôt. À très vite, n'oubliez pas de noter le podcast, de le partager, les 5 petites étoiles et vive la Formule 1 sur RMC. Bye bye. Ciao.
Ciao.
Le paddock RMC.